Et il est 8h.
Il faut avoir conscience que le bac 2020 ne se déroulera pas dans les conditions normales.
L'énorme machinerie du bac, comme l'appelle Édouard Philippe, sera très différente cette année. Contrôle continu, doublé éventuellement d'une épreuve fin juin. Ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas vu leur école, mais pour les élèves d'Île-de-France et d'Occitanie, les vacances scolaires commencent officiellement ce soir. Attention, le confinement demeure et les gendarmes n'ont pas l'intention de gober des excuses bidons.
Des gens qui partaient soi-disant s'occuper d'une personne. On s'est rendu compte qu'ils partaient rejoindre une petite copine qui habitait en province.
Dans ce journal, on avance sur les pistes du déconfinement. Le service Société d'Europe 1 va nous éclairer. 100 milliards venus de Bruxelles où nous serons en direct. L'Europe est-elle enfin solidaire? Et puis l'idée d'une ado de 12 ans, elle a lancé un mini journal télévisé pour la filière Saint-Nectaire qu'elle ne voulait pas laisser couler.
Chers amis, vous pouvez devenir acteur de notre filière en mangeant du Saint-Nectaire, les produits laitiers, les produits de vos agriculteurs.
À 8h15, et c'est la première fois qu'elle s'exprime depuis le début de la pandémie, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en exclusivité sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. De 8h30 à 8h45, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Et à 8h45, ça ne change pas, notre dose quotidienne de Nicolas Canteloup, en direct pour sa revue de presse. Il est 8h02, bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qui n'a jamais entendu un parent, un prof, un oncle ou une tante lui dire que, de son temps quand même, le bac, c'était plus dur. Sauf que, de leur temps, il y avait un bac dans des conditions normales et sous une forme immuable depuis des années.
Nous sommes en 2020 et c'est l'incertitude la plus totale pour les plus de 700 000 candidats du bac. Invité hier soir de TF1, le Premier ministre Édouard Philippe a commencé à préparer les esprits à un changement très net du format de l'examen cette année.
Le baccalauréat, c'est une énorme machine à organiser. Et à l'évidence, cette machinerie annuelle ne va pas pouvoir être mise en œuvre dans de bonnes conditions. Il va falloir organiser les épreuves du bac 2020 d'une façon totalement originale. Soit elles auront lieu sur le fondement du contrôle continu, soit on peut espérer conjuguer à ce contrôle continu une épreuve qui serait organisée à la fin du mois de juin. C'est ce que j'ai demandé au ministre de l'Éducation nationale d'instruire. Il faut avoir conscience que le bac 2020 ne se déroulera pas dans les conditions normales.
Le Premier ministre qui a par ailleurs écarté toute hypothèse de hausse des impôts après la crise, ce serait la pire des choses, dit-il. Reste à savoir quand interviendra cette fin de crise, le déconfinement. Plusieurs scénarios sont en cours d'élaboration. Les précisions de Mathieu Charrier.
Édouard Philippe l'a confirmé. Plusieurs groupes d'experts travaillent en ce moment sur des stratégies de déconfinement, dont un nom de code Covidia, qui est d'ailleurs bien avancé. L'idée serait de collecter puis d'extrapoler les données de 300 000 volontaires français pour en faire un échantillon représentatif de la population. Ces personnes fourniront alors 2 informations, leur numéro de téléphone et le résultat de leur test coronavirus. Ensuite, en retraçant leur déplacement grâce au smartphone, des formules mathématiques permettront alors de connaître notre taux d'immunité global région par région. Ça aiderait à appliquer un deuxième pan de la stratégie, déconfiné par tranche, par zone, par groupe d'âge, même si la majorité des scientifiques est d'accord pour dire que les plus âgés devront rester confinés plus longtemps, ce qui inclut bien sûr un confinement maintenu dans les EHPAD, un lieu de risque majeur, souligne un médecin. On peut imaginer par exemple des tests rapides à l'entrée et à la sortie de ces établissements. En revanche, un autre expert souligne qu'il faudra favoriser la circulation des actifs essentiels à la reprise de l'activité, tout en respectant un cadre strict de distanciation sociale. Pas question d'imaginer une rouverture soudaine et massive des restaurants, cinémas, salles de spectacle ou de sport. Un dernier médecin conclut par un mot, les masques, dont il faudra selon lui généraliser le port.
Le bilan de l'épidémie en France, 4500 morts plus 884 dans les EHPAD. Notez que depuis un mois, 12 400 personnes sont sorties guéries des hôpitaux français, 1493 rien qu'hier.
Les municipales, il en a été question aussi dans les propos d'Édouard Philippe hier soir avec l'interrogation suivante, pourra-t-on faire le second tour en juin ou plus tard? Encore beaucoup de questions. Jean-Gabriel Bourgeois.
Beaucoup d'inconnus et une seule certitude, la victoire des quelques 30 000 maires élus au premier tour est acquise. À droite, on plaide pour installer rapidement les conseils municipaux indispensables pour gérer la crise correctement sur le terrain et faire redémarrer l'économie via les commandes publiques. Mais dans toutes les autres villes, si le vote est repoussé après l'été, été, il faudra bien organiser 2 tours de scrutin, rejouer entièrement le match et reprendre la campagne électorale à zéro. Un candidat en ballotage s'interroge, on recommence avec les mêmes listes, d'autres vont vouloir se lancer, prévient un élu de l'opposition, un autre se demande si les dépenses déjà engagées seront bien remboursées, et dans la majorité, on redoute une explosion des recours provenant de battus du 15 mars, qui demanderaient l'annulation du résultat dans leur ville, au motif que le scrutin a été faussé. Un report aurait une autre conséquence, il faudrait aussi décaler les sénatoriales prévues en septembre, et quitte à tout chambouler, certains suggèrent même de voter en mars 2021 pour les municipales, les départementales et les régionales en même temps.
La banque BNP Paribas suspend le dividende prévu pour ses actionnaires. Les sommes seront réaffectées à ses réserves financières. La Banque Centrale Européenne avait demandé aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes tant que dure la pandémie.
L'Europe, justement, que l'on a vu agir en ordre dispersé, c'est un euphémisme, avec des stratégies très différentes sur le confinement, sur les tests. Hier, enfin, un début de solidarité avec l'annonce d'un fonds de 100 milliards d'euros pour aider les pays de l'Union sur la question du chômage partiel.
Isabelle Horry, vous êtes en direct de Bruxelles. Les Européens se seraient-ils finalement ressaisis ?
C'est vrai qu'au début, ça n'a pas été beau à voir, comme dit un analyste. Hein, chacun pour soi, la France et l'Allemagne empêchaient les exportations de matériel médical vers leurs voisins, l'Est fermait ses frontières. Il n'y avait plus personne sur le pont du paquebot européen. On était tous dans le canot de sauvetage au même moment, admet un diplomate. C'était d'autant plus compliqué que la santé n'était pas jusqu'ici une vraie compétence de l'Union. Mais très vite quand même, les Européens ont fait exploser les règles budgétaires, fini les 3% de déficit. Ils ont relancé ensemble la production de matériel et des points de passage rapides restent ouverts aux frontières pour les marchandises. Bref, l'Europe a avancé en marchant.
Mais tout de même, Isabelle, l'ambiance n'a pas l'air d'être vraiment terrible là, entre voisins. Ces derniers jours, l'Espagne ou encore l'Italie ont accusé les Pays-Bas de mesquinerie.
Oui, ça c'est la bataille de l'après-crise qui est déjà lancée. L'Italie ou l'Espagne souffrent durement, ils dépensent beaucoup. Ils n'ont pas envie ensuite de subir un programme d'austérité à la grecque, si j'ose dire, imposé par le Nord. Grosse colère donc quand un ministre des Pays-Bas a demandé une enquête sur leurs finances. On a entendu de l'émotion et des discours dramatisants sur l'Europe qui pouvait mourir. Résultat, le ministre a dû s'excuser pour son manque d'empathie et surtout le sujet de la solidarité financière entre Européens, le sujet de l'endettement en commun pour faire face à l'avenir a repris des couleurs. La Commission montre l'exemple sur le chômage partiel. Les ministres des Finances vont débattre de tout cela mardi prochain.
Merci beaucoup Isabelle Horry en direct de Bruxelles, notre correspondante. Je vous rappelle que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, donne sa première interview depuis le début de la pandémie à Sonia Mabrouk, juste après ce journal.
Donald Trump, de nouveau testé négatif au coronavirus, deuxième dépistage pour le président des États-Unis. Je l'ai fait par curiosité pour voir à quelle vitesse cela allait, dit-il. C'est beaucoup plus facile, le deuxième est beaucoup plus agréable.
Au Panama, une mesure surprenante, les femmes et les hommes autorisés à sortir, mais pas les mêmes jours. Ce sera les lundis, mercredis, vendredis pour les unes, mardi, jeudi, samedi pour les autres. Le dimanche, tout le monde reste à la maison.
Et puis cette information en Algérie, le journaliste Khaled Drareni, ancien correspondant d'Europe 1, est incarcéré depuis dimanche. Plusieurs ONG appellent à sa libération sans délai, accusant le pouvoir algérien de profiter du coronavirus pour régler ses comptes avec le journalisme indépendant.
On vous le disait dans les titres, et ça fait bizarre de le dire, les vacances scolaires commencent ce soir pour la zone C, Île-de-France et Occitanie.
On ne part pas en vacances en période de confinement, répète le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les contrôles routiers sont renforcés, comme le détaille Eddy Andréani, commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière des Yvelines, un peu échaudé par les prétextes trouvés par certains automobilistes.
On a eu effectivement des départs en vacances déguisés. Alors des gens qui avaient acheté un chien et qui partaient récupérer ce chien en province alors qu'ils habitaient Paris. Des gens qui partaient soi-disant s'occuper d'une personne et on s'est rendu compte qu'ils partaient rejoindre une petite copine qui habitait en province. Donc il y a le volet éducatif, il y a le volet répressif lorsqu'on se rend compte que la personne ne veut pas faire demi-tour, ne veut pas respecter le confinement et que clairement on a affaire à des gens qui ont une vision qui est très individualiste. Ce week-end, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le maillage mis en place par la gendarmerie avec l'appui des hélicoptères nous permettra un suivi vraiment de certains automobilistes et de vérifier que les gens reprennent en tout cas le chemin inverse.
Eddy Andréani, joint par Salomé Legrand pour Europe 1.
On en vient à ce cheese buzz, ou comment, en bon français, parler du Saint-Nectaire en faisant tout un fromage.
Oui, car les trois quarts des marchés alimentaires sont fermés. Vous le savez, le confinement a de graves conséquences pour la filière fromagère. La fille d'une productrice à Cournolles, dans le Puy-de-Dôme, a eu l'idée de faire une vidéo, un mini JT pour aider sa maman. Jean-Luc Boujon nous raconte la suite.
Ça commence par le générique du 20h de France 2. Mais en lieu et place d'Anne-Sophie Lapix, c'est Eva Tartière, 12 ans, qui informe sur les difficultés des producteurs de fromage.
Nous vivons actuellement une crise sans précédent face au Covid-19. Tandis que nos commandes diminuent, le travail et la production restent les mêmes sur la ferme.
La voici ensuite dans l'étable, près des vaches de sa maman.
Chers amis, vous pouvez devenir acteurs de notre filière en mangeant du Saint-Nectaire, des produits laitiers, des produits de vos agriculteurs.
C'est Eva, pourtant très timide en temps normal, et sa grande sœur qui ont eu cette idée en constatant les difficultés de leur maman à vendre ses fromages depuis la fin des marchés.
Il fallait rebondir, il fallait montrer que travailler pour ne pas pouvoir vendre, c'est compliqué.
Et ça marche depuis une semaine, 12 000 vues sur Facebook et des ventes qui redécollent, explique la maman Marie.
Ça a boosté les ventes, quoi. Déjà, on a pu faire de la place dans les caves, on peut retransformer, on peut remettre un peu en cave. Ça m'a fait super plaisir, j'étais très fier d'elle. Enfin, j'ai trouvé ça tellement juste et bien fait que c'était parfait.
40 commandes de Saint-Nectaire passées en quelques jours et le souhait de cette productrice, c'est que désormais toute la filière des fromages d'Auvergne puisse profiter de ce coup de projecteur.
Reportage fondant de Jean-Luc Boujon.
Merci beaucoup François Geffrier. À vous de réécouter le journal de 8h pour y trouver tous les jeux de mots de François Geffrier. Merci beaucoup. 8h11, l'interview politique. Nous retrouvons Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre invitée, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Europe face à une crise historique et aux accusations de manque de solidarité. L'entretien est à suivre.
A tout de suite sur Europe 1. Sur Europe 1, c'est sa première interview depuis le début de la pandémie et c'est ici sur Europe 1, Ursula von der Leyen et votre invitée Sonia Mabrouk, la présidente de la Commission européenne.
Bonjour Madame Ursula von der Leyen.
Bonjour Madame.
Merci d'accorder à Europe 1 cet entretien exclusif. C'est votre première interview sur un média radiophonique français depuis votre arrivée à la tête de la Commission européenne. Alors je précise à nos auditeurs que vous parlez français, vous parlez bien français. Néanmoins, notre traductrice sera présente tout au long de l'entretien si vous en ressentez le besoin. Vos réponses, Ursula von der Leyen, sont attendues alors que le coronavirus frappe tragiquement l'Europe. Tout d'abord, comment vous décririez ce que l'on vit ? Est-ce que nous sommes en situation de guerre contre l'épidémie ?
Oui, cette crise est certainement la plus grande tragédie que nous traversons depuis la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le combat de notre génération d'Européens. En quelques semaines à peine, notre vie quotidienne a changé complètement. Les rues sont désertées, nous devons rester loin de nos proches. Moi, je suis à Bruxelles et ma famille est en Allemagne. Et cette distance, qui pourtant est vitale contre le virus, pèse sur nos cœurs et sur notre morale. Mais je sais que les Européens sont forts et capables de faire face à cette crise sans précédent. J'ai vu des actes de solidarité partout en Europe. Chaque geste compte. Je pense par exemple, à vous, à la France, car votre pays a donné, par exemple, 1 million de masques à l'Italie pour aider le peuple italien. Ou je pense aux voisins de la France, à l'Allemagne, le Luxembourg, l'Autriche, qui ont accepté d'accueillir près de 150 malades de la région Grand Est pour soulager les hôpitaux sur place. Et bien sûr, je pense aux femmes et aux hommes qui mènent ce combat quotidien. Je leur veux rendre hommage, aux infirmières, aux médecins, aux soignants en France, en Italie, en Espagne et dans toute l'Europe. Ce sont les héros qui luttent jour et nuit pour nous sauver, pour sauver nos proches. Je leur exprime toute ma gratitude et celle de l'ensemble de l'Europe.
Vous parlez, Ursula von der Leyen, de solidarité au moment où l'Union européenne est accusée d'avoir, il faut bien le dire, laissé tomber l'Italie. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations qui sont graves ?
Il est vrai qu'au tout début de la crise, certains États membres, je pense, n'ont pensé qu'à leurs propres problèmes. C'était pas souhaitable, bien sûr, mais nous avons beaucoup œuvré pour changer ces mentalités. Je me rappelle qu'au début, par exemple, il y a eu la fermeture des frontières ou des interdictions aux exportations. Et cela était un facteur de perturbation. Par exemple, il y avait une interdiction à l'import pour les dispositifs médicaux dont on avait pourtant tant besoin. On a combattu cette mesure tous ensemble. Et aujourd'hui, ces problèmes ont disparu. Nous collaborons de nouveau et on voit beaucoup de signes de solidarité, la solidarité qui se met en place. J'en parlais, les patients qui sont transférés dans d'autres pays frontaliers ou le matériel médical qui est plus largement partagé. Donc, nous pourrions envisager des achats groupés, conjoints, car 25, 26, 27 États membres ont plus de pouvoir d'achat que chaque État membre pris individuellement. Nous aurons plus de force de frappe. Les choses s'améliorent et on commence à mieux comprendre. Si on veut combattre ce virus, il faut faire cela ensemble.
Les choses s'améliorent, dites-vous, Ursula von der Leyen, mais comment expliquer malgré tout qu'au départ, les institutions européennes, que vous-même, vous ayez tardé à prendre, dit-on, la mesure de la gravité de la situation. Est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce qu'il y a une forme de mea culpa collectif aujourd'hui ?
Well, I think that no one foresaw the speed and
personne n'avait pu prédire et prévoir la vitesse de propagation de ce nouveau virus. Mais je peux comprendre la frustration des gens. Mais en tout état de cause, au cours des quatre dernières semaines, les choses se sont nettement améliorées. Nous remportons des succès grâce à notre collaboration pour trouver un vaccin, par exemple, la seule cure contre ce virus. Eh bien, on voit beaucoup de solidarité se mettre en place, également sur le front des rapatriements des citoyens européens. Nous coordonnons nos actions. Nous prenons tous ensemble, par exemple, des mesures qui nous aident à prévoir comment, à partir de là, repartir, quand est-ce que cela va se terminer, quand adviendra le retour à la normalité. On en discute beaucoup et au niveau européen, nous prévoyons une riposte sur le plan économique, une réponse puissante. Bien sûr, c'est une bataille très difficile, mais encore une fois, on la mène ensemble.
On va évidemment parler, Ursula von der Leyen, de l'urgence économique, mais la première des urgences reste sanitaire. Vous avez évoqué, on espère, l'espoir d'un vaccin, mais avant tout, il y a l'importance des matériels de protection, dont les masques de protection qui ont manqué et manquent encore partout en Europe. Est-ce que là aussi, il y a eu un manque de solidarité, une grande désorganisation?
Well, we should not underestimate that the whole world...
Il ne faut pas sous-estimer la demande énorme pour ces matériels de protection, ces équipements de protection. Je me souviens en janvier, lorsque la Chine a été touchée très durement, la première, eh bien c'est l'Union européenne qui a envoyé de l'aide à la Chine. 56 tonnes de matériel médical a été expédié en Chine. Et je sais que tout le monde demande des masques urgemment. Mais les choses évoluent. On voit des usines spécialisées dans la mode qui se sont réorganisées pour fabriquer des masques. Les entreprises qui fabriquent ces équipements de protection personnelle montent en puissance. Des entreprises montent également en puissance pour la fabrication de respirateurs. Et sur le plan de la logistique, on voit des avancées du côté de l'industrie automobile, etc. Donc, bien sûr, la demande en masques et en équipement de protection est gigantesque, mais nous sommes en rivalité avec les autres pays du monde entier pour les respirateurs, même chose. C'est un problème crucial actuellement, mais on organise la riposte.
C'est effectivement, comme vous le dites, un problème crucial. La demande est forte partout, notamment aux États-Unis, qui tentent, Ursula von der Leyen, de préempter, de faire main basse, si on peut dire, sur les masques en proposant plus d'argent. Quelle est la riposte ? Que fait l'Union européenne justement pour se défendre dans cette guerre des masques aujourd'hui ?
First of all, what we do is scale up the production here in Europe.
Nous avons considérablement augmenté la production ici en Europe. Je connais par exemple des entreprises en Bulgarie qui produisaient des dispositifs pour les forces armées en Allemagne. Ils ont complètement changé leur fusil d'épaule et maintenant ils fabriquent des équipements de protection et non plus des matériels militaires. J'évoquais ces usines ou ces entreprises spécialisées dans la mode qui ont reconçu leur ligne de production pour aider l'ensemble des citoyens européens. Et nous procédons à des achats publics groupés car on pèse davantage à 27 sur les marchés que chaque État membre pris individuellement, bien sûr. Nous avons déjà remporté un succès pour l'achat collectif d'équipements de protection personnelle et de l'achat de respirateurs également. Donc plusieurs chantiers sont en place. Bien sûr, c'est une lutte constante. Mais encore une fois, les choses s'améliorent, non seulement du côté des chiffres de ce qui est fabriqué, mais par ailleurs, la vitesse de propagation du virus, malheureusement, s'est accrue elle aussi, et pas seulement en Europe, dans le monde entier.
Alors justement, pour limiter cette propagation de l'épidémie, l'Union européenne a fermé ses frontières extérieures à compter du 17 mars pour une durée de 30 jours. Il est évident pour vous, Ursula von der Leyen, que cette fermeture doit être prolongée compte tenu de la situation?
Right now, we are just in consultation with all the member states.
Nous sommes en train de consulter l'ensemble des États membres pour décider après Pâques de la route à suivre. Mais ça a été une mesure très bien reçue par les États membres. Tout le monde a compris. On a compris la nécessité. C'est une très mauvaise idée de toute façon de faire des voyages superflus, inutiles, de se rendre en Union européenne si ce n'est pas nécessaire. Et la visée était d'empêcher des gens qui n'habitent pas l'Union européenne de venir se faire soigner en Europe alors que le système sanitaire est complètement saturé. Et nous organisons encore une fois des consultations pour voir comment on va procéder après Pâques.
Vous avez votre logique à la tête de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais des pays ont décidé de fermer leurs frontières nationales pour protéger leur population. Ont-ils tort de vouloir préserver leur peuple comme la Pologne, la Slovaquie ou encore la Hongrie? La Hongrie où Viktor Orban s'est fait voter les pleins pouvoirs. C'est une situation d'urgence, non?
Well, first of all, to your first part of your question,
alors, pour répondre à la première partie de votre question, en effet, ça a été très difficile. C'était comme de détruire le marché unique et l'espace Schengen lorsque la plupart des États membres ont rétabli des frontières intérieures. On a réagi fortement contre cela car ça ne peut pas arrêter le virus. Ça détruit le marché unique simplement. Et tous les personnels très importants, comme les soignants, doivent franchir ces frontières. Ils sont souvent des travailleurs transfrontaliers. Au début, il y avait des files d'attente jusqu'à 50 km pour tous ces salariés qui allaient travailler de l'autre côté de la frontière. Mais maintenant, les marchandises repassent les frontières. C'est positif. La seconde partie de votre question, il y a un nombre conséquent d'États membres qui ont mis en place des mesures d'urgence. En effet, je comprends, mais tant que ces mesures sont prévues pour une durée de temps limitée et bien définie, qu'elles visent uniquement à protéger la santé des citoyens et à permettre une action, une riposte rapide de la part du gouvernement. Mais on prête grande attention à la situation et à la nouvelle législation mise en place en Hongrie. Nous sommes prêts à agir si nécessaire, car il est essentiel que cette riposte soit proportionnée, limitée dans sa durée, dans le temps, et surtout qu'elle soit placée sous le contrôle du Parlement. Nous sommes en dialogue avec le gouvernement hongrois sur ces points, mais là encore, je suis prête à agir si nécessaire.
Madame la Présidente de la Commission européenne, face à cette épidémie, il y a évidemment aussi l'urgence économique. L'Union européenne vient de proposer de garantir les plans de chômage partiel des États membres. Et puis, il y a aussi le poison de la division qui revient, division entre pays du Nord et pays du Sud qui se déchire sur le principe d'une mutualisation des dettes. Que dites-vous de ce spectacle aujourd'hui des fractures au sein de l'Union européenne ?
Yes, it is absolutely important to bridge that gap
between the member states. And for that, as a Commission, d'apaiser ces divisions entre les États membres. Comme vous l'avez signalé, nous avons fait de grands pas en avant pour mieux aider les citoyens avec cette initiative récemment mise en place sur SURE en anglais. C'est un plan de maintien partiel de l'emploi. Ensuite, nous nous sommes efforcés de libérer des liquidités en relâchant nos règles très strictes qui suivaient le traité de Maastricht, de sorte que les pays puissent investir massivement des liquidités dans leur économie. Quand on regarde les chiffres, c'est presque 15% du PIB européen qui est mobilisé en ce moment pour l'économie européenne. Et l'instrument de solidarité européenne le plus puissant, c'est notre budget européen qui est accepté par l'ensemble des membres. Il est transparent, c'est un outil excellent pour l'investissement et pour favoriser la cohésion. Et je crois qu'il est capital que nous nous appuyons aujourd'hui sur un budget européen qui soit une forte riposte au coronavirus et une sorte de plan Marshall pour assurer notre avenir.
Alors je m'adresse à l'actuel président de la Commission européenne et il y a un ancien président de la Commission européenne, un grand européen convaincu, Jacques Delors, qui a dit que l'Union européenne, que l'Europe était en danger de mort. Ursula von der Leyen, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que l'Europe peut être la grande victime aussi du coronavirus ? Pour conclure.
Bien, je comprends les raisons pour lesquelles Jacques Delors a dit cela. Le danger est grand. Mais il y a un autre grand Français... C'est Jean Monnet, et il a dit « L'Europe se forge dans les crises ». J'aime très bien cette phrase, je pense que c'est vrai. Nous avons traversé ensemble beaucoup, beaucoup de crises. Bien sûr, elles ne se sont pas ressemblées, mais on a souvent prédit la mort de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes toujours là, et pourtant, nous sommes toujours sortis de ces crises par le haut. Nos pays européens, ils peuvent vivre, pas vivre en autarcie. Ils doivent travailler ensemble. Et si on voit cette crise, on voit également que personne n'est capable de la maîtriser toute seule. Mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Ça ne fonctionne peut-être pas toujours parfaitement, on a parlé de ça. Mais bien mieux que chacun pour soi. Moi, je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise.
C'est l'avenir qu'il dira. Merci Madame la Présidente de la Commission européenne, merci Ursula von der Leyen d'avoir accordé cet entretien exclusif à Europe 1 et d'avoir fait l'effort aussi de répondre à certaines des questions en français, vous qui êtes francophone et francophile également. Merci encore.
Merci à vous.
Entretien exclusif. Merci Sonia Mabrouk. L'interview de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Cette crise est certainement la plus grande tragédie que nous traversons depuis la Seconde Guerre mondiale. Le combat d'une génération d'Européens. Je retiendrai la citation de Jean Monnet aussi. L'Europe se forge dans la crise. On va en reparler, Ursula von der Leyen, cette interview. Et vous allez intervenir, si vous le souhaitez d'ailleurs, au 39-21. A tout de suite sur Europe 1. Vous êtes en direct sur Europe 1, la radio ouverte. Vous le savez, notre matinale est prolongée jusqu'à 9h30 tous les matins. Et comme tous les vendredis, nous allons retrouver les petites voix, les enfants du monde entier qui parlent du confinement, qui parlent du coronavirus. Ce matin, vous entendrez même des petites voix d'enfants de soignants mobilisés contre le coronavirus. Vous venez d'écouter attentivement Ursula von der Leyen, interview exclusive de Sonia Mabrouk avec la présidente de la Commission européenne. Pour l'heure, j'accueille Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, député des Yvelines. Bonjour Aurore Berger.
Bonjour.
J'allais dire porte-parole des Républicains par erreur, je vous prie de m'excuser. Simplement une petite question à la suite de l'interview d'Ursula von der Leyen. Il est vrai qu'au début de la crise, certains États membres n'ont pensé qu'à leurs propres problèmes. Si on veut combattre ce virus, il faut le faire ensemble. Elle promet un plan Marshall. Et si Jean Monnet, l'Europe se forge dans la crise. Aujourd'hui, Aurore Berger, l'Europe est en crise ?
En tout cas, elle a raison, c'est-à-dire que si on n'affronte pas cette crise de manière solidaire, alors on risque de fracasser finalement l'Union européenne et d'avoir finalement un sentiment d'échec quant à l'appartenance à un ensemble comme celui de l'Union européenne. Donc je crois qu'il faut impérativement que cette solidarité, elle s'exprime. Elle ne s'est pas assez exprimée vis-à-vis de l'Italie et de l'Espagne. Elle s'exprime aujourd'hui avec des mesures fortes qui vont être mises en place, notamment sur la question de l'accompagnement du chômage partiel, parce qu'il y a des États qui, contrairement à la France, n'ont pas la capacité à pouvoir soutenir leur population. En Espagne, il y a déjà 900 000 personnes qui sont au chômage sec et qui ne sont pas au chômage partiel comme chez nous. Donc je crois que c'est un impératif et que ceux qui croient en l'Union européenne doivent la soutenir aujourd'hui.
Aurore Berger. Reparlons de la France à présent. Le Premier ministre était sur TF1 hier soir. Les municipales, fin juin peut-être, on le saura, fin mai. Sinon, c'est quand à l'automne peut-être, Aurore Berger?
Je crois que c'est vraiment pas la priorité, pour être très honnête, ce sujet. La seule priorité aujourd'hui, c'est l'urgence sanitaire. Et puis ensuite, c'est l'urgence économique et sociale qui en découle dès maintenant. Après, sur la question des élections, très honnêtement, moi, je crois qu'une fois qu'on aura réussi à traverser ce moment qui est très douloureux, qui est le moment du confinement, avec un déconfinement très progressif, comme l'a dit le Premier ministre, je crois qu'on sera plutôt dans une logique tous de reconstruction. Et je crois que les élections, elles ne seront pas dans nos têtes immédiatement. Donc moi, ça ne me choquerait absolument pas, au-delà de la question sanitaire qui doit prévaloir, qu'elle puisse être décalée à l'automne.
Sauf que si je vous pose la question, c'est que j'étais en ligne à 7h avec Cécile Gallien de l'Association des maires de France et de l'Association des maires ruraux qui nous demandait tout simplement, je fais comment, moi, dans une mairie pour organiser une rentrée scolaire sans mon conseil municipal?
Ben, ce qui est certain, c'est qu'il y aura des conseils municipaux partout. C'est-à-dire que dans toutes les communes qui ont été pourvues, élues définitivement au premier tour, c'est quand même 30 000 de nos communes sur nos 35 000. Dès le premier tour, les conseils municipaux nouveaux ont été déjà élus. Et donc ceux-là, il faut évidemment qu'on puisse les installer dès que la question sanitaire sera résolue. Il n'y a pas de raison d'attendre jusqu'à l'automne pour installer ces conseils municipaux. Mais là où il y a besoin d'un second tour, alors ce sont les conseils municipaux actuels qui vont continuer. Et c'est le cas déjà aujourd'hui. On le voit partout avec les maires qui sont mobilisés, y compris certains maires qui pourtant ne s'étaient pas représentés, mais qui, confrontés à l'urgence actuelle, eh bien, assurent leur mandat jusqu'au bout.
Vous savez, Aurore Berger, quelle est la préoccupation numéro un ce matin de nos auditeurs au 39-21 et sur le hashtag Radio Ouverte? Ce n'est pas une devinette, je vous le dis, c'est le baccalauréat. Aujourd'hui, il y a 700 000, 750 000 élèves qui doivent passer le bac, autant de familles qui sont concernées. Cette incertitude aujourd'hui, ou alors la crainte d'avoir un bac qui ne comptera pas?
Alors, le bac, évidemment, va compter et évidemment, il aura lieu. C'est-à-dire que tous les bacheliers vont pouvoir passer leur bac, mais il est forcément dans des conditions qui sont extrêmement particulières cette année parce que il paraît assez compliqué de se dire qu'on va pouvoir réunir des milliers d'élèves dans certaines salles qui seraient confinées, alors même justement qu'on a encore ce sujet sanitaire qui prévaut. Donc le ministre de l'Éducation nationale va s'exprimer à 10h30 pour expliquer aux parents, aux élèves, aux enseignants les solutions qui ont été trouvées. Il y avait déjà l'idée de la mise en place d'un contrôle continu beaucoup plus poussé. Je crois que c'est dans cette voie-là que le ministre souhaite aller, c'est-à-dire la prise en compte très approfondie du contrôle continu, de règles d'assiduité, mais il fera les annonces aujourd'hui. Mais je comprends qu'il y ait évidemment de l'inquiétude et de l'impatience sur le sujet.
Et les annonces dans la matinée, on l'a dit, Jean-Michel Blanquer, très attendu. Aurore Berger, on a tout dit, ou presque, sur le manque de masques, qu'ils soient chirurgicaux ou masques en forme de canard, les FFP2, sur l'impréparation de l'État, je dis bien de l'État et pas de l'exécutif. On parle aussi des bilans des gouvernements précédents. Aurore Berger, tout a été dit, sauf une chose. Ce que disait Marina Carrère-Dancos, invitée chez Philippe Vandel mercredi matin sur Europe 1, on a menti sciemment sur l'utilité des masques pour une bonne cause. Est-ce qu'on a menti aux Français sur l'utilité de ces masques, Aurore Berger?
Personne n'a menti sur l'utilité de ces masques. D'ailleurs, l'OMS a fait exactement les mêmes recommandations que celles de la France, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a d'autre intérêt que de protéger la santé de l'ensemble de la population mondiale. Ce qui est certain, et je pense que le Premier ministre l'a dit de manière claire, c'est que à partir du moment où on est confronté à une pénurie mondiale, parce que la Chine a souhaité, ce qu'on peut comprendre, réserver la production de ses masques d'abord à sa population, il a fallu évidemment pouvoir gérer, état par état, chacun a géré la pénurie que cela causait. Et donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, les masques ont été d'abord réservés à ceux qui en ont besoin. Les Français n'ont pas besoin d'un masque FFP2, par exemple. Et ça, évidemment, ça doit être réservé aux soignants. Et d'ailleurs, il a été dit que même avec des stocks beaucoup plus approfondis, ces masques-là FFP2, qui vraiment sont ceux qui protègent le plus dans le cas d'interventions invasives, elles ne doivent être réservées qu'aux soignants. Mais vraiment, je crois qu'il n'y a pas... Enfin, je comprends tout à fait, évidemment, les doutes qui peuvent s'exprimer, les inquiétudes qui peuvent s'exprimer, parce qu'on est tous face à une situation qui est douloureuse pour nos familles, pour nos parents, pour nos grands-parents, pour nos proches, pour nos amis. Et donc, je comprends que ces questions, elles existent et qu'on souhaite savoir ce qui s'est passé ou mal passé. Et je pense qu'il faudra absolument tout dire. Mais l'exercice qu'a fait encore une fois, même hier, le Premier ministre, c'est justement de tout mettre sur la table, d'assumer, de dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, et d'expliquer aussi quel a été le niveau de préparation et quels ont été les choix qui ont été faits. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu de mensonge. Il y a juste eu, à un moment, confronté à une pénurie mondiale, des choix de protection.
Non, mais quand on dit que ces masques ne servent à rien si on n'est pas contaminé, vous comprenez que c'est compliqué aujourd'hui de voir que dans plein de pays du monde, on les porte, ces masques, et qu'en France, on nous a dit qu'ils ne servaient à rien, or on en avait besoin.
Je comprends évidemment les questions que ça peut soulever. Ce que je vous dis juste, c'est que cette recommandation, même si elle peut paraître peut-être un peu décalée ou étonnante, c'était la même recommandation que celle de l'OMS. Après, encore une fois, l'honnêteté, c'est de dire qu'on a été tous les pays au monde confrontés à une crise complètement inédite, complètement exceptionnelle dans ses conséquences, et que les pays ont dû gérer des pénuries, et que certains d'ailleurs continuent à gérer de manière très douloureuse ces pénuries. Et donc ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'à un moment, il y a des publics qui sont priorisés. Donc c'est d'abord les soignants, c'est ceux qui travaillent dans les EHPAD.
Merci beaucoup Aurore Berger. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin en direct. Porte-parole de La République En Marche, député des Yvelines sur la radio ouverte. J'accueille à présent Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Mathieu Béliard.
Et merci beaucoup d'être en direct avec nous. C'est compliqué en ce moment, il y a peut-être un climat d'union nationale que vous appelez de vos voeux. C'est compliqué de pratiquer la politique, si j'ose dire, et pourtant il reste des questions très politiques. Vous avez tweeté le 1er avril, on attend qu'Emmanuel Macron soit le père de la nation, le devoir d'unité va avec le devoir de vérité. Je reprends sur la même question que celle que je posais à Aurore Berger. On a menti aux Français ?
Mais écoutez, les choses sont claires. Moi, j'étais le 27 février à une réunion à Matignon avec le Premier ministre. On nous a dit qu'il n'y avait pas de problème de masque. Le directeur général de la Santé a indiqué le 26 février, je le cite très précisément, il n'y a pas de sujet de pénurie. Or, on sait désormais que nous avons eu une stratégie qui a été inspirée non pas par les meilleures pratiques, quand on disait que les masques étaient inutiles, c'est simplement qu'on voulait cacher la pénurie. Donc voilà, je pense que ça, c'est le passé et j'ai écouté attentivement le Premier ministre hier, j'ai senti qu'il y avait un effort de transparence.
Il a été rassurant, Bruno Retailleau, hier soir.
En tout cas, moi j'ai trouvé l'exercice réussi. J'ai suffisamment dit que la gestion avait été trop chaotique, qu'il y avait eu une cacophonie et qu'il y avait eu un manque d'anticipation pour reconnaître quand les choses vont mieux. Vous savez, c'est à la suite de mes interpellations que le gouvernement a pris un décret pour autoriser toutes les collectivités de France à commander des phases parce qu'on n'y arrivait pas. C'est aussi à la suite de mes interpellations qu'on a fait un pont aérien. Au départ, tout le monde a trouvé ça comme une demande fantasque. Mais aujourd'hui, s'il n'y avait pas de pont aérien, on n'aurait pas de masques qui arriveraient de Chine en France.
Édouard Philippe a aussi dit que si on avait eu à l'époque ces informations que nous avons aujourd'hui, on n'aurait certainement pas organisé le premier tour des municipales. Or aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire du second tour, des conseils municipaux qui ne sont pas forcément en place. Bruno Retailleau, jusqu'à quand est-ce qu'on peut reporter un scrutin ?
Écoutez, moi je vais vous le dire, la loi a prévu une date, c'est-à-dire que le comité scientifique devra dire le 23, dans un rapport, le 23 mai, si c'est raisonnable ou pas. Mais moi je vais vous le dire, tout le monde sait bien que on n'organisera pas le second tour au mois de juin. Vous ne pouvez pas dire aux familles, aux enfants, écoutez, on va transformer le bac, c'est pas sérieux de réunir des élèves dans une même classe en juin et demander en même temps aux électeurs, aux citoyens français dans 5000 communes les plus grandes notamment, de se déplacer pour un second tour. Donc évidemment, ce sera déplacé et si on déplace au-delà des vacances le second tour, on devra aussi rejouer le premier tour pour ces 5000 communes.
Y compris pour les communes où un conseil municipal a été réélu dès le premier tour ?
Non. J'ai bien entendu ce matin sur votre antenne la maire des Hautes-Loire qui doit être vice-présidente de l'AMF. Moi, je milite pour que dans les 30 000 communes où le premier tour était acquis, d'ailleurs au Sénat, on a gravé dans la loi que ce premier tour acquis, personne ne pouvait le contester. On ne pouvait pas le rejouer. Première chose. Deuxième chose, il va falloir maintenant, assez rapidement, dès qu'on le pourra, élire des maires et des adjoints, parce qu'il y a des situations qui sont difficiles. On ne peut pas demander à celles et ceux qui ont été élus, et surtout à des anciens maires, avec parfois des bisbilles dans certaines communes, on a besoin de maires, de conseils municipaux installés rapidement pour faire face à la crise.
Une dernière question, parce que ça c'est un véritable débat finalement ces derniers jours, il reste des débats. La libération anticipée de détenus pour cause de confinement, de crise du coronavirus, Bruno Retailleau.
Non, moi, écoutez, je crois qu'on ne peut pas s'interdire tout, mais très franchement, on ne peut pas gérer les prisons et notamment le risque de la multirécidive, parce que nos forces de l'ordre sont occupées aujourd'hui et sont en première ligne, et je pense que ça n'est pas une bonne décision. Voilà, c'est tout. Je l'ai dit, d'autres comme moi l'ont dit. Malheureusement, là encore, on a manqué d'anticipation. Le programme du candidat Macron, c'était 14 000 places de prison qui seraient construites dans ce mandat. Je ne sais même pas si on aura 1000, voyez.
Merci beaucoup Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat. Merci d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Je note plusieurs choses. On a, oui, manqué d'anticipation, peut-être caché la pénurie, mais vous saluez aussi l'exercice de transparence du Premier ministre hier soir. Un peu de politique ce matin, oui, parce que c'est aussi très politique que toutes ces questions finalement que nous nous posons en ce moment. Questions sanitaires, questions économiques, questions politiques ce matin en direct sur Europe 1. Merci Bruno Retailleau, 8h43. À suivre la revue de presse de Nicolas Canteloup avec Julie. Restez bien sur Europe 1.
Coronavirus.
Les petites voix, les enfants du monde entier qui parlent du confinement, du coronavirus. C'est juste après 9h, on va parler des enfants de personnel soignant sur Europe 1 ce matin. Mais pour l'heure, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on vous retrouve tout de suite, Mathieu Béliard, pour le rappel de l'actualité.
Oui, merci Julie. Et je voudrais remercier toutes les équipes d'Europe 1 pour ces duplex, ces interviews. Merci à Sonia Mabrouk pour cette interview très réussie d'Ariel Dombal, vous l'avez entendu ce matin.
Europe 1. Ursula von der Leyen.
Oui.
N'importe quoi.
Oui. C'est la même voix, en tout cas, j'ai confondu. Beaucoup d'auditeurs ont confondu. Europe 1, vous l'avez compris, aujourd'hui, donc toujours mobilisé pour vous faire vivre ce confinement. D'ailleurs, nous les journalistes de la matinale, on a même un groupe WhatsApp, autant vous le dire, on va rien vous cacher, pour échanger au quotidien. Mm-hmm. Alors on échange, on va tout vous dire aussi, surtout sur la bouffe, il faut avouer. Hein, c'est un groupe WhatsApp de bouffe. Voilà. Le monde s'écroule et nous, on échange des recettes de cuisine. Jérôme Lacroix fait des flammes cuques, Hélène Zélani sait faire du boudin blanc, Laurent Cabrol du poulet au pastis. Mais bon, sans bien sûr abuser du poulet. Voilà.
Moi j'ai quand même été plus complet, hein, plus exhaustif. J'ai dit quand même que je faisais des carbonara avec de la saucisse et de la tomate. Voilà, il faut être quand même précis, honnête et intellectuellement.
Oui, c'est plus des carbonara.
Des cabrolara, il a dit.
Cabrolara, oui.
Des cabrolara. Ah,
vous voyez, chers auditeurs, qu'on est vraiment mobilisés. Quand j'étais jeune, j'avais un groupe de rock. Maintenant, j'ai un groupe de bouffe. Voilà, on grandit comme on peut.
J'ai une brigade, Nicolas. Une brigade.
Oui, parce qu'il y a un R, brigade. Alors, l'info du jour, c'est Édouard Philippe. Revenons un petit peu sérieux, parce qu'on est quand même aussi là pour ça, pour vous informer, écouter le monde chargé. Édouard Philippe qui a annoncé hier que cette année, le bac pourrait s'obtenir sur contrôle continu. Enfin, petite correction tout de même, le chômage s'obtiendra sur contrôle continu. C'est plus exact de le formuler comme ça, c'est important d'être précis. Bon, je vous laisse, je vais acheter des saucisses pour faire la recette de Lolo Cabrol.
Merci Mathieu Béliard. Édouard Philippe était en émission spéciale hier soir sur TF1. Le Premier ministre a abordé la question du déconfinement. Bonjour Édouard Philippe.
Bonjour Madame Jolie. Monsieur Mathieu,
ah, pas mal.
Mathieu Pétard,
ça, c'est
un jour en carbone. Bonjour à tous. Voilà, écoutez, certaines concernant la déconfiture du pays, le déconfinement, du pays, lapsus révélateur. En même temps, ça va être un petit peu pareil. Il va être, et je l'ai rappelé hier, il va être évidemment progressif.
Alors, vous avez en tête un déconfinement par groupe, hein. Mais quel groupe? Alors, il y a les régions, les tranches d'âge, comment vous voyez ça?
Alors, ça fait débat. Ça fait débat. Moi, dans l'idéal perso, j'aimerais les faire sortir par niveau de conneries. Voilà. Les Français pas trop cons sortiraient en premier. Voilà, parce qu'ils sont capables, ces Français pas trop cons, de comprendre les gestes barrières. Ils savent qu'on ne pourra pas refaire des pique-niques immédiatement au but de Chaumont. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, on ferait sortir les gens un peu cons. Ouais. Par exemple, un petit peu cons comme ceux qui mettent des mots dans les halls d'immeubles pour demander aux infirmières de déménager. Vous voyez,
c'est même très
cool. Un petit peu débile et un petit peu méchant. Voilà, ils sont prudents, d'accord, mais un petit peu, oui, c'est pas très. Voilà.
Et dans un troisième temps, alors, c'est qui les Français les plus cons, les plus bêtes?
Alors, troisième temps, les Français les plus bêtes, évidemment, vous l'avez compris, les enfants.
Ah bon?
J'ai échangé avec monsieur Béliard. Antenne et il en est totalement d'accord. C'est quand même, un enfant, c'est pas futé. Hein. Niveau QI, on est entre le singe handicapé mental et l'anémone de mer. Hein. On va pas se mentir.
Oh là là.
Hein. Il touche à tout, l'enfant. Il lèche leur morve, il mange des chewing-gums qu'ils ont trouvés par terre. On peut pas faire confiance décemment pour l'hygiène à des enfants pour endiguer une pandémie. Hein. Désolé pour les parents. Hein. Vous allez devoir encore les supporter un petit moment.
Ah oui. Voilà. Bon, on va vous remercier. Hein. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. On revient sur cet article du Parisien intitulé Les populistes passent à l'attaque. L'article fait bien sûr allusion à Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen.
Bien, je constate avec regret qu'on m'attaque sans préambule. Je ne vous salue donc pas, madame. En revanche, bonjour à vous, à toi, et joli métis, mon beau garagiste des tropiques. Oh, il est de plus en plus beau celui-ci, plus sauvage que jamais, le cheveu long, la barbe folle.
Ah oui, ça pousse.
On dirait Jim Morrison. Non, pardon, c'est un mélange entre Jim Morrison et Carlos de Papa Youlélé.
Oui, plus. Alors, Marine Le Pen, vous accusez le gouvernement de mensonges et d'impréparation.
Parfaitement, madame. Car on nous ment. Ce virus, le virus est partout dans nos villes, il est dans nos campagnes, c'est un envahisseur qui est là, qui rôde dans nos villes, dans nos campagnes. Oh là, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ceci. Ouh là là.
Oui, c'est bon, oui, on se souvient
c'est
des images.
C'est un tube.
Oui. Et vous accusez aussi le président de mensonge, mais ça c'est grave, hein. Vous avez des preuves?
Non, c'est pas grave, madame. Bien sûr, madame, j'ai des preuves. J'ai la preuve vivante. Monsieur Macron nous encourage à faire attention aux personnes âgées qui sont, soi-disant, les plus fragiles. Mais mon propre père va très bien. Pas un début de tout, madame. Oh. Pas un début de fièvre, madame. Donc je dis que M. Macron est un menteur. Voilà. Au revoir. Excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Excusez-moi que de passer ma vie avec un garagiste. Je ne vous salue pas. Mais au revoir tout de même, mon joli métis.
Oh,
j'aimerais voir dans d'autres conditions.
Ouais, ça va venir, allez. François Hollande donnait hier un cours d'éducation civique en live sur le Facebook de l'association Bibliothèques sans frontières. Bonjour, monsieur Hollande.
Hey, bonjour, madame Julie. Bonjour à tous mes abonnés. Permettez-moi de saluer tous mes followers et toute ma famille d'Insta. Et oui, les fololo. Et je profite du confinement pour devenir une star du web.
Alors, comment ça s'est passé, ce cours d'éducation civique en live sur Facebook?
Très bien. Soyez précis, d'éducation civique, hein, ce n'est pas d'éducation physique.
Voilà. Ah bah non, je n'ai pas dit ça.
Il n'y a pas de risque de confusion, mais tout de même, ça vaut mieux d'être dit. Notre jour d'éducation physique. Écoutez, vous le savez, j'aime avant tout transmettre. La transmission est une de mes valeurs fondamentales. Mm-hmm. J'aime faire comprendre aux jeunes ce qu'ils doivent faire pour aider leur pays, rester chez soi, aider les autres et ne plus jamais voter Emmanuel Macron. Ce sont des trois exemples clés.
C'est quelque chose que vous pourriez refaire, vous?
Ah ben, tout à fait, bien sûr. Vous savez, j'ai monté ma chaîne YouTube.
YouTube?
Oui, c'est YouTube, mais corésien. Basé à Tulle. On aimait depuis Tulle. YouTube. J'ai proposé mes tutos confinement. Oh, mais je peux vous le lire, oui, tout à fait.
J'aimerais beaucoup.
Hein, dites ce que vous en pensez. Hein.
Salut les followers. Aujourd'hui, dans On glande avec Hollande, je vous propose un tuto confinement. Comment faire pour rester chez soi? Alors, cela est très simple. Vous retirez vos chaussures, puis vous vous asseyez sur un canapé. Et voilà, vous êtes resté chez vous. La semaine prochaine, nous verrons comment faire pour ne rien faire. Et salut la famille.
Oh bah dis donc.
Voilà, vous comprenez, même Julie, rester chez soi et ne rien faire, je suis, je pense, un des spécialistes. Et c'est un petit peu, voilà, et donc si je peux aider, c'est avec plaisir.
C'est ça, oui, allez, merci monsieur Hollande.
Avec plaisir.
Le Covid-19 rend les Français accros à l'info. Les chaînes d'information CNews, LCI et BFM ont vu leur audience doubler. On est en ligne avec le patron de BFM, notre ami Marc-Olivier Fogiel. Bonjour Marc-Olivier. Ouais,
bonjour ma Julie, bonjour mon Laurent, bonjour Mathieu, bonjour à tous, à Claredac. Ça va Mathieu? Moi ça a changé Europe 1. Hein. Moi quand j'étais patron de la matinale, j'avais un sublime bureau rue François 1er au cœur du 8e arrondissement. Ouais. Et toi t'es dans ton garage entre une caisse à outils et des boîtes de petits pois au fond d'un bled de Normandie. Tu captes la différence? Oh le loser Mathieu.
Alors c'est fou ces audiences qui double, hein, Marc-Olivier.
Ben non, Julie, c'est fou, c'est pas fou, ça s'appelle juste un vrai professionnel, c'est tout. Moi, quand je déboule sur un média, pan, je double audience, voilà, c'est comme ça. Prends-en des notes, gamin, dans ton garage, hein, quand je parle. Prends des notes. Bon, je reconnais que c'est vrai, l'épidémie mondiale de coronavirus nous a un peu aidé, ok.
Un peu aidé, à peine, oui, c'est
une
ça.
Pandémie mondiale pour une chaîne info, c'est un petit peu comme Pâques pour un chocolatier. Hein. C'est la haute saison, hein. On n'a pas vu ça depuis la peste en 1526. Mais il n'y avait pas BFM télé à l'époque, non, ni BFM radio. Hein. Enfin, il faut peut-être demander à Hervouette, ça je ne suis pas sûr. Hein.
Merci Marc-Olivier Fogiel. Les vacances de Pâques vont commencer ou devraient commencer. Mais pour Christophe Castaner, pas question de voir les Français casser le confinement pour partir en vacances. Bonjour monsieur le ministre de l'Intérieur.
Oui, bonjour madame Julie, bonjour monsieur Béliard, bonjour à tous. Écoutez, oui, il n'est pas question que certains imbéciles bravent le confinement pour aller contaminer des régions jusque-là épargnées. Alors, il faut faire les vacances chez soi. C'est une chose que je demande à chaque citoyen, à différentes destinations. Chez soi, à salon, Saint-Salon sur canapé, à Cuisine les deux éviers ou à Siestons dans le Plumard. Ce sont des destinations qui peuvent être rafraîchissantes.
Monsieur le ministre, vous ne craignez pas que certains Français moins responsables sortent, quoi qu'il arrive?
Non, écoutez, nous ne pouvons pas nous permettre, madame Leclerc, que des irresponsables fassent courir un risque à la nation. J'ai donc demandé à un expert de m'aider à confiner les gens à leur domicile.
Ah bon,
si vous le permettez, je vais d'ailleurs demander son service.
Piotr! Piotr,
oh non.
Venez vous présenter à la radio, Piotr. Expliquez-nous.
Salut. Bonjour, bonjour, mon Dieu, bonjour, médias corrompus.
Piotr Pavlevski, c'est bien ça. Bonjour, mais vous collaborez, vous collaborez avec Christophe Castaner, ça alors? Mais à quel niveau? Qu'est-ce que vous faites?
Bah oui, moi, pas vouloir que le coronavirus se répandu. Alors, pour empêcher Français de sortir, moi, aller chez eux. Et moi, cloué, testicule à eux sur parquet. Hier, cloué-moi 94 personnes chez eux. Et je trouve qu'on a... Voilà, je regarde que je n'y peux. Français qui s'enfuit. Excusez-moi. Arrête-toi, toi. Arrête-toi.
Non, mais il est con, quoi.
Non, mais toi, pas bouger.
Non, stop. Non, arrêtez. Aïe, 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 aïe.
Voilà,
toi, Piotr, voilà, encore un petit malin, encore un contrevenant auquel nous avons contrevenu. Vous voyez, madame Julie, monsieur Béliard, monsieur Cabrol, aucune liberté par rapport au confinement ne sera tolérée.
Piotr et les médias corrompus. Bon, merci beaucoup Nicolas Canteloup, la revue de presse évidemment. On garde la revue de presse parce qu'on en a besoin, y compris en période de coronavirus ou de confinement. Oui, tous les matins, Nicolas Canteloup et Julie à 8h45, la revue de presse qu'à retrouver sur europe1.fr. Un coucou aux auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, 8h57. À suivre, un nouveau journal avec Hélène Zélani, la question des municipales. Nous allons appeler Olivier Duhamel, bien sûr. Fanny Agostini, le rendez-vous à la ferme. Et les petites voix, les enfants qui parlent du coronavirus. C'est juste après 9h, à tout de suite. Soyez les bienvenus sur Europe 1, il est 9h, un nouveau journal, Hélène Zélani.
Cette crise, personne n'est capable de la maîtriser toute seule. Mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble.
L'Europe se forge dans les crises, disait Ursula von der Leyen ce matin en citant Jean Monnet, la présidente de la Commission européenne, était l'invitée exceptionnelle de la radio ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Pas de vacances en plein confinement, le message des autorités est clair, les forces de l'ordre sanctionneront sur les routes.
On ne peut pas dans le même temps applaudir nos soignants à 20h et avoir des attitudes de non-respect du confinement. Donc oui, on sera d'une intransigeance totale.
Des doutes sur le bac, Édouard Philippe souhaite qu'il soit jugé à 100% sur le contrôle continu. Les parents de la PEP aussi.
La chose la plus simple pour nous, c'est le contrôle continu. On utilise ce contrôle continu maintenant pour simplifier les choses et enlever de l'angoisse aux élèves et aux familles.
Et puis à quand le second tour des municipales? En juin, en octobre, plus tard, nous appellerons le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Juste après ce journal, Mathieu.
Les petites voix, comme tous les vendredis désormais, les enfants du monde entier qui parlent, qui se parlent du coronavirus et du confinement, c'est juste après le journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'était l'événement ce matin sur Europe 1. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était l'invitée exceptionnelle de Sonia Mabrouk. Au début, certains États membres n'ont pensé qu'à leurs propres problèmes, a-t-elle regretté. Elle a également souhaité un plan Marshall pour assurer l'avenir de l'Europe. En tout cas, pour elle, plus que jamais, c'est notre union qui fait notre force.
Nous avons traversé ensemble beaucoup, beaucoup de crises. Bien sûr, elles ne se sont pas ressemblées, mais on a souvent prédit la mort de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes toujours là, et pourtant, nous sommes toujours sortis de ces crises par le haut. Nos pays européens, ils peuvent vivre, pas vivre en autarcie. Ils doivent travailler ensemble. Et si on voit cette crise, on voit également que personne n'est capable de la maîtriser toute seule. Mais nous sommes capables de lutter contre le virus ensemble. Ça ne fonctionne peut-être pas toujours parfaitement, mais bien mieux que chacun pour soi. Moi, je suis convaincue que l'Europe sortira plus forte de cette crise.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne en français, invitée exclusive d'Europe 1 ce matin. La commission qui va garantir les plans nationaux de soutien à l'emploi jusqu'à 100 milliards d'euros.
Et vous retrouvez la présidente de la Commission européenne, l'interview sur Europe1.fr bien sûr, ou alors des extraits sur nos réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. Un cap symbolique vient d'être franchi. Plus d'un million de personnes dans le monde touchées par le coronavirus. La moitié de la planète en confinement.
Et en France, des vacances de printemps confinées. Elles commencent aujourd'hui pour les élèves de la zone C, Île-de-France et Occitanie. Si vous comptiez rejoindre un lieu de villégiature, attention, vous êtes prévenus, les forces de l'ordre seront déployées en nombre sur les routes pour sanctionner Emmanuel Barbe, préfet des Bouches-du-Rhône.
Nous allons réserver un comité d'accueil à ceux qui voudraient venir se changer d'air dans le beau département des Bouches-du-Rhône, sachant qu'il y aura un comité de départ et probablement un comité de voyage, parce que je crois qu'il y aura, sans m'engager, il y aura du bleu vraiment sur toutes les routes de France.
Et d'ailleurs, vous avez prévu de renvoyer ces touristes qui pourraient être franciliens ou d'Occitanie, de les renvoyer dans l'autre direction et de les escorter?
Des motards de la police ou de la gendarmerie peuvent vous remettre sur la route du retour. Donc ça peut être une expédition assez désagréable, mais on fait ça tout simplement parce qu'on ne peut pas dans le même temps applaudir nos soignants à 20h et avoir des attitudes de respect, de non-respect du confinement. Donc oui, on sera d'une intransigeance totale selon les instructions du ministre de l'Intérieur.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, Emmanuel Barbe, invité du journal de 6h d'Europe 1 ce matin. Vous allez peut-être partir en vacances. Essayez quand même, je ne sais pas, vous aviez prévu de vous confiner ailleurs. Vous pouvez témoigner, hein, vous le savez, au 3921 sur le hashtag Europe 1, ça n'est évidemment pas recommandé. Les 750 000 lycéens de terminale n'ont sans doute pas vraiment la tête aux vacances. Ils attendent toujours de savoir à quelle sauce ils seront mangés pour le bac 2020.
Hier soir, Édouard Philippe a reconnu qu'il ne pourrait pas se tenir ce bac dans des conditions normales en juin. Il est plutôt pour un 100% de contrôle continu. Les parents de la PEP sont sur la même ligne.
La chose la plus simple pour nous, c'est le contrôle continu. Hein. Éventuellement, si on veut mettre une matière supplémentaire à l'écrit, mais je ne sais pas si c'est forcément très utile, parce que ça va quand même demander beaucoup d'organisation au niveau des établissements. Donc pour nous, le contrôle continu est suffisant. Et le contrôle continu a déjà une valeur importante, puisque ce contrôle continu, c'est celui qui a permis aux élèves de faire leur dossier dans Parcoursup. Voilà, donc les élèves ont déjà bien travaillé au premier, deuxième trimestre, ils savaient l'enjeu. Voilà, donc on utilise ce contrôle continue maintenant pour simplifier les choses et enlever de l'angoisse aux élèves et aux familles.
Le porte-parole de la Fédération de Parents La Paix, Hubert Salone, avec Pauline Jacquot, et le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, doit préciser le choix du gouvernement tout à l'heure, dans la matinée.
9h05 sur Europe 1. On va parler dans la suite du journal du second tour des municipales. Quand se tiendra-t-il ? La question reste entière. Édouard Philippe évoquait hier soir un report en octobre, peut-être après. Bonjour Olivier Duhamel.
Oui, bonjour Mathieu Vella.
Vous êtes politologue, Olivier Duhamel, spécialiste en droit constitutionnel, et on vous retrouve le samedi sur Europe 1 entre 10h et 11h, c'est Mediapolis. D'abord, reporter, annuler un scrutin municipal, ça ne s'est jamais vu ?
Non, ça ne s'est jamais vu. Ce qui s'est vu, c'est qu'il y a eu un écart un peu supérieur à une semaine, qui est la règle habituelle. C'était pour les élections municipales du printemps 1945. C'est-à-dire qu'on a fait le premier tour le 23 avril, on était encore en guerre, puisque la guerre s'est arrêtée le 8 mai, comme vous savez. Et le second tour a eu lieu le 13 mai, vous voyez, on n'a pas reporté de beaucoup. Et ce qu'on a vu aussi, c'est une fois une élection législative sur l'île de la Réunion en 1973, qui a été annulée, le second tour a été reporté par le préfet, parce qu'il y avait eu un cyclone, donc vous voyez, une catastrophe imprévue. Et le préfet, cette décision absolument unique avait été validée par le Conseil constitutionnel. Donc, pour ce qui a été déjà décidé, c'est-à-dire que le second tour, comme chacun sait, n'a pas eu lieu le 22 mars. Le 22 mars, d'ailleurs, ça nous paraît si loin maintenant. Ça a été décidé par le gouvernement, et ça a été accepté. Et puis, maintenant, pour l'avenir, c'est la loi qui décide.
Pour l'avenir, c'est oui, sauf qu'il y a plein d'implications, notamment sur le calendrier électoral, Olivier Duhamel. Oui. Il y a des sénatoriales à l'automne, il y a les régionales dans moins d'un an maintenant. Ça a un impact conséquent.
Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que j'ai entendu tout à l'heure, vous avez entendu, puisque vous les interrogiez vous-même, successivement Aurore Bergé et Bruno Retailleau. Et ils ont dit la même chose. Et pourtant, elle est dans la majorité, elle est dans l'opposition. Et les deux ont dit clairement qu'ils préféraient que le second tour soit reporté au mois d'octobre. C'est le Parlement qui va le décider. C'est le Parlement. La loi qui a été votée le 23 mars, qui a été promulguée plus exactement le 23 mars dernier, qui a instauré l'état d'urgence sanitaire, a prévu que le Parlement devait, à la fin du mois de mai, après rapport du comité scientifique, décider si le second tour des municipales était en juin ou il était reporté. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu sur votre antenne. Il est très, très, très probable que ce sera reporté au mois d'octobre. Et si c'est le cas, le premier tour, là où il n'a pas élu les maires, sera annulé. On recommencera tout, sauf pour, évidemment, les communes dans lesquelles le maire a déjà été élu.
Merci Olivier Duhamel, c'est très clair, et on vous retrouve demain matin comme tous les samedis sur Europe 1 pour Mediapolis avec Catherine Ney entre 10h et 11h.
Europe 1.
9h08 sur Europe 1, dans un tout petit instant, la suite du journal avec des services funéraires au bord de l'explosion. A tout de suite. Europe 1. 9h09 sur Europe 1, la suite de votre journal. Plus de 4500 personnes sont décédées à l'hôpital depuis le début de l'épidémie, mais 12500 en sont sorties guéries. Dans les EHPAD, toujours pas de chiffre définitif, mais au moins 884 personnes âgées sont décédées.
Et les pompes funèbres sont saturées au point qu'un bâtiment du marché de Rungis s'est transformé en funérarium. Il accueille à partir d'aujourd'hui les cercueils et les familles qui veulent se recueillir. Des services funéraires au bord de l'explosion, notamment dans le Grand Est, comme l'a constaté Romain Oquet.
Sur un mois habituel, on est à 80-120 décès. Là, on a été à 280. On restera marqué à jamais par quelque chose comme ça. Hein.
Dans cette entreprise de pompes funèbres de Mulhouse, les salariés sont mobilisés le jour, la nuit, le week-end. Les congés ont même été supprimés. Dans la chambre funéraire, Guillaume Lantz, le gérant, compte les cercueils.
Là, actuellement, j'en ai 6 ou 7 en permanence. On n'en est pas encore au point de les empiler, mais si la situation perdure telle qu'elle est, on n'aura malheureusement plus le choix. On a l'impression de passer sur un travail quasiment industriel.
Un rythme plus intense encore qu'en 2003 lors de la canicule, assure le responsable, avec cette fois la peur d'être contaminé. Sur les 50 employés, 7 sont tombés malades. Chez Lydie Santilli, installée en Île-de-France, l'activité a doublé et les stocks de masques, de blouses s'amenuisent au fil des décès.
Nos salariés viennent travailler la peur au ventre. Nous avons suffisamment de masques pour tenir une dizaine de jours. Après, c'est l'inconnu.
L'entreprise a mis en place une cellule psychologique pour ses salariés, un espace où ils pourront évoquer un profond regret, ne plus avoir le temps pour accompagner les familles laissées seules face au deuil.
Roman, ok. Le groupe Accor ferme les deux tiers de ses hôtels dans le monde dans les prochaines semaines. Il renonce aussi à distribuer, comme prévu, 280 millions d'euros de dividendes.
On pourrait croire que, confinés, nous écoutons encore plus de musique. Eh bien non, c'est même le contraire.
Oui, les deux premières semaines de mars, l'écoute de musique sur les plateformes de streaming a baissé de près de 25% en Italie. La tendance est en train de se confirmer en France. Angèle Châtelier.
Deux raisons expliquent notre désamour pour la musique en confinement. D'abord parce que chaque jour devient un dimanche, rappelle Sofian Fanen, journaliste au jour et spécialiste du streaming.
On est à la maison, mais on a autre chose à faire. C'est comme les samedis, les dimanches en fait. C'est pas des gros jours en temps normal, c'est pas des gros jours d'écoute de la musique. Et on se retrouve avec des courbes effectivement qui sont très différentes et avec des volumes d'écoute qui sont à peu près à moins 10 inférieurs à celles d'écoute normale en semaine, mais qui ressemblent vraiment à un dimanche.
Résultat, les Italiens ont été moins nombreux de 23% à écouter les titres du top 200 sur Spotify au début du mois. 2% en France à la même période, mais nous n'étions pas encore confinés et nous pouvions encore prendre les transports en commun, là où on écoute le plus de la musique. Alors Arnaud Duranton, directeur marketing à Deezer, s'attend à la même chose qu'en Italie.
Concrètement, on consomme beaucoup dans le métro quand on va au travail, un petit peu moins quand on passe de sa chambre à sa cuisine pour prendre le petit déjeuner, quoi.
Et puis, on ne peut plus acheter de disques, ni en écouter dans sa voiture, ce qui explique selon lui qu'il y ait tout de même une hausse des abonnements payants. Et autre nouveauté, depuis la crise sanitaire, l'écoute des radios d'actualité sur les plateformes de streaming a elle aussi augmenté.
Tiens, s'il y a une chose à écouter aujourd'hui en streaming ou à acheter, puisque c'est pour la bonne cause, pour aider les personnels hospitaliers, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny qui ont publié cette nuit Pour les gens du secours, morceau enregistré eux aussi en télétravail, en confinement si j'ose dire. Vous retrouvez sur Europe1.fr Périscope avec Jean-Philippe Ballas, entretien entre confinés avec Marc Lavoine.
Et un autre rendez-vous, Mathieu, ne manquez pas, la France bouge tout à l'heure. Comment la culture se digitalise en ces temps de confinement entre 13 et 14 heures, Raphaël Duchemin posera notamment la question au patron de Deezer France.
Merci beaucoup Hélène Zellani. Ce débat justement autour de la digitalisation de la culture à ne pas manquer aujourd'hui, c'est à 13h précisément. Vous êtes sur Europe 1, 9h13. Et c'est l'heure de retrouver Fanny Agostini en direct de Haute-Loire dans sa ferme pédagogique. Le rendez-vous à la ferme de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
Et attention à l'approche de Pâques, vous vouliez nous dresser le portrait de la véritable poule en chocolat.
Oui Mathieu, permettez-moi un peu de légèreté et permettez-moi de vous présenter une petite cocotte qui existe vraiment, la cocotte en chocolat, en chair et en plumes. C'est la poule de race Marance qui est originaire du Marais Poitevin. Sa caractéristique vraiment, ce sont les œufs qu'elle pond, des œufs pigmentés de façon unique. À s'y méprendre, on croirait des œufs grand cru en chocolat. C'est l'une des seules poules au monde avec une autre race espagnole à réussir à pondre des œufs de Pâques couleur cacao.
Ces poules marrants, pardon, sont tellement prisées qu'il y a même une échelle colorimétrique pour mesurer la bonne conformité de la race.
Oui, je vous assure, c'est même très strict. La poule sera homologuée comme une authentique poule Marance si et seulement si la couleur de son œuf atteint 4 sur une échelle reconnue au niveau international allant jusqu'à 9. Le 1 correspond à l'œuf que l'on connaît tous, l'œuf blanc classique de la poule gauloise, pour aller à l'extra roux, voire au noir ébène de la poule Marance. Alors, quand la couleur atteint ce niveau exceptionnel, cela indique que la poule dispose de suffisamment de protoporphyrine, une protéine qui va venir teinter l'œuf et aussi renforcer sa coquille.
Une coquille plus épaisse qui présente un gros avantage.
Avantage concurrentiel indiscutable face aux autres poules. La coquille est épaisse à tel point que les œufs ne se cassent pas facilement, ce qui facilite donc leur transport. Et aussi, l'épaisseur de la coquille va limiter sa porosité avec l'air ambiant. Ce sont des œufs qui ne sont pas concernée par la salmonelle, une bactérie transmissible à l'homme. Voilà pour la cocotte Marance. Alors pour avoir des œufs de Pâques toute l'année, vous l'avez compris, l'astuce c'est d'en avoir une dans son poulailler.
J'ai tout mangé le chocolat.
Je vais très sérieusement y réfléchir. L'omelette des œufs de la poule marrant, pourquoi pas, des œufs couleur chocolat. On apprend des choses au contact de la nature. Là, on va émerveiller les enfants grâce à vous, Fanny Agostini. Le rendez-vous à la ferme à retrouver sur Europe1.fr. J'ai tout mangé le chocolat, je ne fais rien que des bêtises, Sabine Paturel. Tiens, est-ce qu'ils en font en ce moment des bêtises, les petites voix, dans quelques minutes. Les enfants qui parlent du confinement, c'est sur Europe 1. 9h15. Il est 9h15 sur Europe 1 et Laurent Cabrol est avec nous. Pour la météo, vous avez des poules marrants? Laurent, vous ?
Hélas, non, mais ça ne saurait tarder. Ah ouais. Je ne sais pas si j'en aurai une, mais franchement, c'est très curieux. Je voudrais vous dire simplement que sur la moitié nord, eh bien, nous avons un ciel le plus souvent nuageux, que ces éclaircies, des éclaircies vont apparaître dans le courant de l'après-midi, notamment sur l'île de France, et puis sur le nord, le Pas-de-Calais et la Picardie et les Ardennes, qui seront des régions où le soleil aura un peu plus de chances de percer qu'ailleurs sur cette moitié nord de la France, alors que dans les régions du sud, y compris le Poitou-Charentes d'ailleurs, le sud-ouest et ainsi que le Massif central et la région Rhône-Alpes seront des régions où le soleil aura vraiment sa place tout au long de la journée. Vous pourrez le distinguer et l'admirer de votre fenêtre. Mistral et Tramontane sont là et seront là toute la journée, donc vent de nord et des températures entre 13 et 16 degrés. Demain, vendredi, c'est un petit peu la même chose. Samedi, nous allons vraiment vers le printemps. Dimanche est un temps estival. Lundi, pas terrible, mais ensuite le soleil se réinstallera pour la semaine prochaine et probablement jusqu'à au moins le 15 avril.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol, il est 9h17.
Europe 1.
Vous l'attendez ce rendez-vous désormais, je sais que vous le podcastez, que vous le partagez même à vos élèves pour les enseignants, les petites voix, les enfants du monde entier qui parlent du coronavirus et du confinement, c'est dans quelques secondes.
Béliard.
Il est 9h18 et Europe 1 est avec vous, à vos côtés, dans cette période si particulière, ça vous le savez, vous intervenez très régulièrement au 3921, il y a le hashtag Radio Ouverte aussi. Les parents, rapprochez vos enfants du poste et montez le son. Chaque vendredi, ce sont eux qui ont la parole sur Europe 1 avec les petites voix, quand les enfants parlent du confinement aux quatre coins du monde.
Coronavirus.
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 Bonjour Xavier Yvon.
Hello Mathieu, bonjour à tous.
Xavier, vous êtes dans le bureau Europe 1 à New York, en liaison avec votre petite bande d'enfants confinés un peu partout sur la planète.
Oui, bienvenue à nouveau dans Les Petites Voix, bienvenue aux enfants et aux adultes. Alors comme chaque semaine, la petite bande est là, connectée. On a Olivia, 15 ans à Bruxelles, Rosalie, 11 ans à Berlin, Marius à Sèvres qui a 10 ans, Violette, 11 ans à Paris et ici à New York, à côté de moi, Sacha qui a 9 ans. Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, d'abord les enfants, on est tous entrés dans la troisième semaine de confinement. Comment ça va ?
Ici à Paris, je trouve que en fait ça va, je m'attendais à quelque chose de vraiment ennuyant alors que en vrai c'est plus un nouveau mode de vie, plus calme où t'as plus le temps de faire les choses, t'es souvent moins stressé aussi.
Moi à Sèvres, ça va de mieux en mieux parce qu'on a pu récupérer un potager, du coup maintenant on fait du jardinage.
Moi à New York, c'est pas que ça devient de plus en plus bien, c'est juste que je crois qu'en fait c'est juste parce qu'on s'habitue, alors qu'avant on était un peu plus comment ça va se passer et tout. Mais comme maintenant on s'est habitué, bah on se sent plus confortable.
Moi à Bruxelles, je suis d'accord avec ce que Sacha elle a dit parce que on a tous trouvé un rythme et on s'est tous habitués à ce rythme qui est beaucoup plus lent et on en profite plus qu'avant où on savait pas comment faire et on voulait faire comme avant.
Moi, le soir, avec mes parents, j'ai de la chance parce que mes parents, ils font pas des apéros par Zoom ou FaceTime avec leurs amis. Au contraire, ils profitent de ce temps pour faire un maximum de choses avec nous. Alors, on fait des apéros dînatoires tout en jouant, en rigolant, en parlant et c'est super sympa. Et on fait ça à peu près tous les soirs. Alors, c'est génial.
Alors, la semaine dernière, vous vous souvenez, on a beaucoup parlé des soignants à l'hôpital. Bon, eux aussi, ils ont des enfants. C'est le cas, par exemple, de Quentin, qui a 10 ans, et de Tristan, qui a 8 ans. Leur père et leur mère sont tous les deux médecins à l'hôpital. Et pendant que maman et papa travaillent et sont en première ligne contre le coronavirus, eh bien, Quentin et Tristan, eux, écoutez bien, ils vont à l'école. Et voilà ce qu'ils racontent de leur quotidien.
On a de la chance d'être à l'école parce que d'habitude, on est à plus de 200. Et là, ça fait bizarre qu'on soit une quinzaine.
C'est pas comme d'habitude, puisque quand je suis dans la cour, je me sens un peu seule. Et dans la classe aussi, je me sens un peu seule. Et donc du coup, je suis pas trop habituée.
Est-ce que vous comprenez pourquoi vous, vous êtes à l'école et pas les autres enfants ?
Ben oui, moi je comprends, puisque nos parents, s'ils nous gardent à la maison, eux, ils vont pas aller à l'hôpital. Ils vont pas pouvoir soigner les gens.
Des fois, ils nous racontent qu'ils sont fatigués et qu'ils ont besoin d'aide. Ils sont débordés dans leur service.
Comment vous voyez qu'ils sont fatigués, vos parents ?
Ils s'énervent plus vite, ils ont moins de patience, ils se couchent tôt et ils regardent des films pour s'apaiser.
Et est-ce que vos parents font des choses différentes de d'habitude à la maison ?
Dès que ma maman et mon papa y rentrent, j'ai pas le temps de leur faire un câlin puisqu'ils vont direct prendre leur douche. Parce que là, le coronavirus, et eux, ils sont à l'hôpital, il a plein de microbes là-bas. Ben, moi, ça m'embête un peu, puisque je veux faire un câlin à ma maman, et ça m'inquiète aussi du coronavirus, parce que moi, j'ai un peu peur de l'avoir.
Tristan et Quentin, est-ce que vous pouvez me raconter ce que vous faites tous les soirs à 20h?
J'ouvre la fenêtre le soir, et on applaudit nos parents, on remercie les autres qui applaudissent nos parents. Ça me fait très plaisir parce que moi je suis fière de mes parents parce qu'on est dans une phase difficile et il faut les aider.
Alors qu'est-ce que ça vous inspire ?
Chapeau à cette famille parce que les parents, comme ils sont soignants, bah, ils sauvent des vies. Et les enfants, ils comprennent et bravo.
Moi, à Sèvres, j'ai de plus en plus peur du coronavirus parce que j'ai vu récemment qu'apparemment aux États-Unis un bébé de 6 semaines était mort du coronavirus. Du coup, je me dis que j'ai de plus en plus peur et que faut faire vraiment très attention et rester chez soi.
L'une des grandes questions en ce moment, un peu partout dans le monde, ici aux États-Unis mais en France aussi, c'est le problème des masques. Et à ce sujet, je vais vous faire écouter Célestin, un autre enfant de médecin. Il est en CM2, sa maman travaille à l'hôpital à Paris.
Elle me raconte que c'est la énorme pénurie de masques. Et du coup, à chaque fois qu'à la télé, tu sais, quand on regarde les infos, ils voient sur un reportage des gens qui, dans les supermarchés, avec des masques HSP2, les masques spécialisés dans le Covid-19. Et elle se met en colère parce qu'elle se dit « Non, mais ça va pas. Nous, on en a deux en toute une journée et eux, ils en ont. Mais c'est pas juste. » Du coup, ça l'énerve vraiment parce qu'à l'hôpital, ils en ont vraiment pas beaucoup.
Moi, à Sèvres, je trouve que c'est vrai qu'il faut pas être égoïste, mais je trouve que c'est un peu l'instinct de survie. Et c'est sûr que c'est pas bien, mais après, je trouve que c'est quand même normal parce qu'il y a des gens quand même qui préfèrent se sauver eux que sauver plus de gens.
Moi, personnellement, je préfère mourir et sauver plus de gens que pas mourir et que plein de gens meurent à cause de moi.
Mais aussi, les masques, c'est pas pour te protéger, c'est pour protéger les autres. Parce que si t'as le coronavirus, tu le passes pas aux autres. Aussi, à New York, le maire a dit que tout le monde doit porter un masque. Et je trouve ça bien, mais en même temps un peu bizarre, parce que les médecins aussi, ils en ont besoin.
Moi, à Berlin, je suis du même avis de Sacha, parce que il faut porter des masques pour se protéger. Mais en même temps, les aides-soignants et les soignants, ils en ont besoin plus que nous, alors... Je suis partagée.
Moi, à Bruxelles, ma voisine, elle a trouvé une super bonne technique. Elle cousse ses propres masques. Et donc, comme ça, elle n'empêche pas un hôpital d'avoir des masques dont ils ont besoin. Je trouve ça hyper pratique.
Bon, alors, nous, on parle depuis l'Europe et les États-Unis, mais le coronavirus, il est partout sur la planète. Vous allez l'entendre, on va faire un petit tour du globe. On va partir d'abord à 9000 km de Paris, direction un tout petit pays d'Amérique latine, le Costa Rica.
Je m'appelle Zoé. J'habite au Costa Rica, à San José, et moi, je dois rester à ma maison à cause du coronavirus qui est très dangereux.
Et on traverse l'Atlantique pour se retrouver en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément.
Je m'appelle Marcus, et j'ai 3 ans.
Et où est-ce que tu habites ?
À Abidjan. C'est fermé l'école. Et ils vont ouvrir l'école quand les enfants n'auront pas des maladies.
Et pour finir ce tour du globe, on va tout à l'est, en Russie.
Je m'appelle Azarel, j'habite à Moscou et j'ai une question pour tous les enfants. Est-ce qu'il leur manque le plus ?
Moi, à New York, ce qui me manque le plus, c'est de voir mes amis.
Moi, c'est Marius à Sèvres. La chose qui me manque le plus, c'est aussi voir mes amis.
Moi, à Paris, ce qui me manque le plus, c'est de parler avec des personnes qui ne sont pas mes proches.
Moi, à Berlin... Moi, c'est mes amis et je me demande quand je vais pouvoir voir ma famille.
Moi, à Bruxelles, c'est d'être à moins d'1m50 avec d'autres personnes.
Voilà, c'est la fin. Merci à toutes les petites voix qui nous ont envoyé des questions. On peut malheureusement pas toutes les diffuser, mais on les écoute toutes. Alors merci notamment à Lisandrou, Baptiste, Jeanne, Lucien, Marilou, Adrien et aussi Tom et Malo en Bretagne. Sacha, le mot de la fin ?
Stay safe and wash your hands.
Prenez soin de vous et lavez-vous les mains. À très vite.
Merci les enfants et merci Xavier et Yvon. Ce qui me manque le plus, c'est de parler à des personnes qui ne sont pas mes proches. C'est intéressant ce que disent ces petites voix. Rendez-vous vendredi prochain, une nouvelle édition avec des gamins du monde entier qui parlent de leur vie au temps du coronavirus. Tiens, vous voulez participer, témoigner, poser une question ? Il y a notre adresse mail, les petites voix au pluriel bien sûr. Les petites voix @europe1.fr. Les enfants, on veut vous entendre et en attendant, vous réécoutez les petites voix en podcast sur europe1.fr. Pour ce qui est de la voix des personnels soignants, il y a tout terrain aussi, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous entendrez ceux qui sont en première ligne face à la vague qui déferle sur l'Est et l'Île-de-France. Médecins, infirmières, fatigués, qui ne baissent pas les bras. Rendez-vous avec Fabienne Lemoyle à 13h demain sur Europe 1. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Philippe Vandel pour Culture Média. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu. Vous voulez savoir ce qu'il y a ? Il n'y a pas que la maladie qui se diffuse à vitesse grand V en ce moment. Il y a aussi les fausses infos. On sera avec Thomas Huchon, spécialiste de fake news à Spicy. Ensuite, jamais son émission n'aura été autant d'actualité et d'utilité publique. La Maison France 5. On est tous à la maison. On sera avec Stéphane Thébault, le présentateur.
C'est bien vu, faire, non ? C'est très bien vu, ça.
On réfléchit dans cette équipe. Et puis, Éric Rochant, créateur, réalisateur du Bureau des légendes, qui est peut-être la meilleure série française. La saison 5 démarre lundi. Il sera avec nous dans quelques minutes.
C'est Culture Média et c'est jusqu'à 11h sur Europe 1. Europe 1 à vos côtés tous les jours, toute la journée, week-end compris, avec Bernard Poirette pour vous réveiller demain matin, bien sûr. Moi, je serai là dès lundi, dès 6h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.